Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un entretien avec l'Allemande Angela Merkel, un dîner avec l'Espagnol Pedro Sanchez, un déjeuner à venir avec au moins 4 dirigeants européens. Emmanuel Macron tisse sa toile pour peser à l'échelle européenne sur la future mandature. Nous essaierons de savoir quelle influence le président français a réellement.
Et vous entendrez ensuite le parti Les Républicains se déchirer après un mauvais score aux européennes. Leur patron, Laurent Wauquiez, refuse de démissionner. Il propose des états généraux.
La pollution de l'air a des effets à court terme sur la santé respiratoire, selon l'INSEE. Témoignage d'une victime qui porte plainte contre l'État dans ce journal.
Et puis nous irons ensuite en Israël où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a seulement 48 heures pour trouver un gouvernement de coalition.
Un pro-européen convaincu ou eurosceptique farouche, reste-t-il un espace politique entre ces deux options? Frédéric Saïs posera la question dans son billet politique après ce journal. Après les élections, place aux tractations. Les groupes politiques se constituent au Parlement européen avec dans toutes les têtes l'enjeu de la présidence de la Commission européenne, car les négociations servent aussi à cela. À désigner le président ou la présidente de la Commission, on compte aujourd'hui au moins 3 candidats. Les grandes manœuvres débutent. Un dîner exceptionnel des chefs d'État et de gouvernement est d'ailleurs organisé ce soir à Bruxelles pour en discuter. Emmanuel Macron, évidemment, y participera. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles, Angélique. La liste du président français est arrivée deuxième en France à 0,9 points du Rassemblement national. Peut-il tout de même arriver en position de force ce soir?
Eh bien, ce n'est pas évident, d'autant qu'il fera partie donc des dirigeants qui ont essuyé un échec à domicile, une courte défaite, certes, vous l'avez dit, mais une défaite tout de même qui ne le met pas en position confortable ce soir face à la quinzaine de chefs d'État et de gouvernement sortis vainqueurs, eux, des élections dans leur pays, et parmi lesquels il y a les populistes et nationalistes polonais ou hongrois, par exemple. Angela Merkel arrive affaiblie, elle aussi, par le score historiquement faible des conservateurs allemands. Tous les deux ont donc et vont encore tenter d'accorder leur point de vue pour éviter d'arriver ce soir divisé. En jeu, vous l'avez dit, il y a la répartition des postes clés à la tête des institutions et en particulier celui de la présidence de la Commission. Le président français, rappelle son entourage, veut une forte personnalité, capable de traiter d'égal à égal avec un Trump ou Xi Jinping. Sa capacité à convaincre ses partenaires d'écarter la candidature de l'Allemand Manfred Weber, dont il ne veut vraiment pas, sera ce soir un test crucial de sa crédibilité. En coulisses, il y a aussi toute la reconfiguration des groupes politiques dans la future Assemblée. Et là, pour le coup, Emmanuel Macron est plutôt en position de force.
Et justement, Angélique, il est déjà très actif, le président français, pour trouver des alliés au Parlement.
Oui, car avec une vingtaine d'élus, le groupe de La République En Marche, emmené par Nathalie Loiseau, sera la première délégation dans le futur gros groupe centriste réformiste en cours de composition dans les couloirs feutrés du Parlement de Bruxelles. Groupe, on le rappelle, qui pourrait réunir plus de 100 eurodéputés. Et le futur président de la Commission, rappelons-le, doit être adoubé par les parlementaires lors d'un vote. Il faut donc des alliés au président français au sein du Parlement, non seulement pour faire grossir son futur groupe, mais aussi pour faire barrage à Manfred Weber et imposer son candidat. Emmanuel Macron est donc extrêmement actif depuis dimanche soir. Long échange téléphonique avec la chancelière, qu'il reverra aujourd'hui. Il arrivera tôt à Bruxelles pour déjeuner avec les premiers ministres belges Charles Michel, le portugais Antonio Costa, le néerlandais Mark Rutte et l'espagnol Pedro Sanchez, avec qui il a déjà dîné hier soir. Pedro Sanchez sorti vainqueur dans son pays et qui, selon des sources espagnoles, partage avec Emmanuel Macron la nécessité de forger une alliance des forces progressistes et pro européenne au Parlement, alliance qui freinerait l'extrême droite. Emmanuel Macron doit aussi s'entretenir tout à l'heure avec les dirigeants du groupe de Visegrad, Slovaquie, République tchèque, Pologne et Hongrie, bastion, on le rappelle, du camp nationaliste.
Merci beaucoup Angélique Bouin d'avoir été en direct ce matin depuis Bruxelles pour France Culture. On suivra évidemment toutes ces tractations tout au long de la journée. De discussion, il en est aussi question au niveau national en France, où le patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, a proposé hier soir la tenue des États généraux de la droite à partir de la rentrée prochaine. Le parti ouvre un grand chantier après son petit score ce dimanche aux européennes, 8,48% des voix. C'est le résultat le plus bas pour la droite sous la Ve République. Des États généraux de la droite, donc, pour lesquels l'eurodéputée sortante Nadine Morano a fait le service après-vente. C'était hier soir lors d'un bureau politique du parti.
Ce qui a été demandé, c'est que on travaille beaucoup, beaucoup pour proposer des idées nouvelles aux Français. C'est ce que nous allons faire. Mais que, ici, vous savez, chez les Républicains, il faut que tout le monde il trouve sa place. J'étais contente de voir Valérie Pécresse et je lui dis que le travail qu'elle doit mener, si elle a des idées à porter, eh bien qu'elle les porte ici dans cette maison puisqu'elle est membre de cette famille politique, qu'elle les porte ici, mais pas à l'extérieur, que tout le monde doit travailler ici et ensemble, comme on a su le faire en 2007.
Alors plusieurs participants, et notamment Valérie Pécresse, ont pourtant posé la question de l'incarnation du parti, c'est-à-dire du maintien ou non de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. La maire LR du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthoux, s'en fait écho.
Il faut prendre la dimension de ce qui est un échec. Et il n'y a rien de pire que mettre un grand mouchoir à carreaux quand on subit une défaite. Donc il faut l'analyser et il faut voir les conséquences qu'on en tire. On a une ligne idéologique qui ne reflète plus à un moment donné ce que nous, en particulier élus de terrain, nous représentons.
Ajoutons que la tête de liste Les Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy, a demandé pardon hier pour le résultat réalisé par son parti dimanche. Pendant ce temps, La République En Marche analyse le résultat de la majorité aux Européennes. Deuxième, juste derrière l'extrême droite. Première, en revanche, dans de nombreuses métropoles en France. Et cela conforte le parti de la majorité qui brigue la mairie de Paris, Rosalie Lafarge.
Et l'horizon paraît aujourd'hui relativement dégagé pour La République En Marche. Après ses bons scores dans la capitale en 2017, la majorité arrive en tête aux Européennes à Paris. Un électeur sur trois choisit Nathalie Loiseau et ses camarades. Ils sont même plus de 45% dans les quartiers chics de l'Ouest, traditionnellement favorables à la droite classique. Et cela emmène la majorité loin devant les autres, très loin devant le Rassemblement National, 7%, très loin devant la liste PS Place Publique, 8%, très loin devant les LR, 10%, et bien loin devant les écologistes qui grimpent tout de même à 20%, ce qui là est plutôt de nature à rassurer Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris très branchée écologie. La REM y croit, la capitale peut être prise et le parti refuse de perdre du temps. Le chef de file Stanislas Guérini convoque dès ce soir les volontaires pour briguer la mairie de Paris, juste avant le premier meeting de l'un de ses candidats, l'ancien secrétaire d'État Mounir Majoubi. La commission d'investiture, elle, devrait être formée dans les jours qui viennent avant une première vague de désignation pour les villes de plus de 9000 habitants attendues avant l'été.
Paris encore et les mesures politiques qui touchent la capitale. Une commission d'élus parisiens de tous bords politiques doit remettre aujourd'hui un rapport à la maire, Anne Hidalgo. Il préconise de limiter la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h maximum dès 2024. Cette mesure viserait à lutter contre la pollution automobile. Car cette pollution est bien réelle. Elle affecte d'ailleurs directement la santé respiratoire des habitants dans les zones urbaines à très court terme. C'est le résultat d'une enquête publiée hier soir par l'INSEE. La fréquentation aux urgences augmente par exemple pour des pathologies respiratoires lors des jours de grève dans les transports en commun. Et c'est ce matin, juste après la diffusion de ce rapport, ce matin qu'une mère de famille va assigner l'État en justice pour carence fautive face à la pollution de l'air. Farida, 52 ans, vivait jusqu'en 2017 en région parisienne, mais face aux problèmes de santé récurrents, elle a dû déménager à Orléans. Elle raconte, tendez l'oreille.
En fait, au début, j'ai pas fait le lien entre la pollution et puis les problèmes de santé, parce que pour moi, la pollution, c'était invisible. Au départ, j'avais pas mal de laryngite, une toux chronique, et ça s'est aggravé par la suite. C'était des maladies pulmonaires, et ma fille, elle faisait de l'asthme. Ça devenait de plus en plus invalidant. Pendant le pic de pollution, j'ai dû faire un arrêt d'un mois, parce que c'était impossible de sortir à l'extérieur. Les médecins, ils donnaient des antibiotiques, mais c'était pas très efficace. Le pneumologue, bon, j'allais le voir souvent, donc après il avait diagnostiqué que j'étais allergique à la pollution. Et la seule solution, c'était de quitter la région parisienne parce que c'était très pollué. Ça a été un changement radical. Du jour au lendemain, plus aucun problème de santé, que ce soit pour moi ou ma fille. Là, on peut respirer un air plus sain.
Et cette mère de famille demande 160 000 euros de réparation à l'État. Audience prévue ce matin. La possible fusion entre Renault et Fiat Chrysler est une belle opportunité, selon le ministre de l'économie français. Bruno Le Maire précise qu'il sera vigilant à ce qu'il n'y ait en France aucune fermeture d'usine, alors que les syndicats chez Renault craignent des réductions d'effectifs. Le ministre souhaite par ailleurs que cette nouvelle alliance automobile participe à la commande des futures batteries européennes. Le conseil d'administration de Renault examine en ce moment cette fusion. Il devrait prendre une décision la semaine prochaine.
8h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le Parlement israélien a effectué hier un premier pas vers de possibles élections.
Oui, il a voté en première lecture sa propre dissolution face à l'impasse des discussions menées par le Premier ministre. Israël n'a toujours pas de gouvernement, cela dure depuis 2 mois. La formation de Benjamin Netanyahou patine sur une opposition entre le camp laïque et le camp religieux, mais elle se veut encore confiante, Marie Semelin.
Il peut se passer beaucoup de choses en 48 heures. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou hier soir. Lui ne veut pas, bien sûr, de nouvelles élections et aux précédentes législatives en 2015, un accord avait été trouvé au tout dernier moment. Ce qui bloque ici, c'est un désaccord entre la droite religieuse et la droite laïque. Le Premier ministre a besoin des deux pour un gouvernement, mais elle s'oppose sur une problématique majeure en Israël. Les juifs ultra-orthodoxes sont dispensés de services militaires normalement obligatoires. Problème, le faiseur de roi de ce potentiel gouvernement est un laïc fervent, l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui refuse aux ultra-orthodoxes ce privilège et veut pousser à leur enrôlement. Sans accord, la perspective de nouvelles élections se rapproche, mais le cauchemar pour le Premier ministre, ce serait un autre scénario permis par la loi israélienne, la nomination de son grand rival, Benny Gantz, pour qu'il tente à son tour de former une coalition. L'urgence pour Benjamin Netanyahou reste de se protéger de la justice. Il veut faire avancer un projet de loi lui garantissant l'immunité, car il risque une mise en examen pour fraude, abus de confiance et corruption.
En Autriche, il n'y a plus de coalition qui tienne. Le gouvernement du conservateur Sébastien Kurz a été renversé hier par une motion de censure votée par la gauche et l'extrême droite. Cela fait suite à une vidéo montrant, il y a 10 jours maintenant, l'ancien vice-chancelier du pays sur le point de se compromettre avec des Russes. Depuis, ce vice-chancelier a démissionné, ainsi que tous ses collègues ministres d'extrême droite. En bref, encore, cette grève générale annoncée au Soudan, elle débute aujourd'hui pour accroître la pression sur l'armée. Plus d'un mois et demi après avoir écarté le président Omar el-Béchir, les militaires refusent toujours de transférer le pouvoir aux civils. Cette grève générale doit durer 2 jours. Nous en venons à ce procès inédit aux États-Unis. Pour la première fois, un laboratoire pharmaceutique est poursuivi pour avoir, à la fin des années 2000, poussé les médecins à prescrire, voire à surprescrire, des médicaments antidouleurs. Le phénomène a pris une telle ampleur dans le pays que des millions d'Américains sont devenus dépendants. L'État d'Oklahoma dans le Midwest est l'un des États les plus touchés. C'est là que se déroule le procès, Grégory Phillips.
En Oklahoma, les overdoses liées à la consommation d'opiacés font désormais plus de morts que les accidents de la route. Et en 2012, année record, les médecins d'Oklahoma prescrivaient plus d'analgésiques qu'il n'y avait d'habitants dans cet état. Alors les autorités locales ont décidé de se retourner contre les laboratoires pharmaceutiques. Depuis 2004, plus de 10 000 habitants sont morts d'overdose, déclare le procureur général d'Oklahoma, Mike Hunter. Et l'an dernier, près de 50% de ces overdoses ont été causées par la prise de médicaments opiacés. La crise sanitaire a débuté à la fin des années 2000. Les laboratoires pharmaceutiques et leurs services marketing incitent les médecins à prescrire tel ou tel analgésique pour la moindre douleur. Le docteur John Aldis, qu'on avait rencontré l'an passé dans un autre état frappé, la Virginie-Occidentale, se souvient très bien de cette époque. Autour de moi, tout le monde mourait. Et à chaque fois, leur addiction avait commencé avec quelques pilules, mais en vérité, ce qu'ils se cachaient derrière tout ça, c'est l'argent. Aujourd'hui, le laboratoire Johnson & Johnson se retrouve sur le banc des accusés. 2 autres labos échappent au procès grâce à des accords financiers de dernière minute. Teva paiera 85 millions de dollars à l'État d'Oklahoma et Pure du Pharma 270 millions. Mais dans une trentaine d'autres États américains, près de 2000 plaintes ont été déposées contre ces laboratoires pharmaceutiques.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Cette attaque au couteau au Japon, attaque rare dans le pays. Un homme a tué cette nuit une écolière, blessé 17 autres personnes dont des enfants. C'était au sud de Tokyo, au moment où des salariés et des enfants se rendaient au travail et en classe. L'agresseur est décédé des suites de ses blessures. Le premier ministre japonais Shinzo Abe parle d'une atroce tuerie. C'était l'un des rares écrivains à avoir décroché à la fois le prix Renaudot et le prix Goncourt pour La démence du boxeur en 92, puis pour 3 jours chez ma mère en 2005. François Weyerganz est mort hier, il avait 77 ans. Le romancier franco-belge était aussi académicien, cinéaste par passion, amoureux de la danse. C'était un romancier atypique, un romancier qui écrivait comme ça venait. François Weyerganz s'en est expliqué sur France Culture le 20 juin 2011 au micro de la Grande Table.
Moi, quand j'écris, ce que j'essaye de faire, c'est en fait d'être inattendu pour être intéressant. Voilà, c'est mon seul souci, c'est qu'on puisse me lire avec intérêt. Et On met du suspense dans une page, dans un paragraphe, dans une phrase, quand elle ne se termine pas, la page, comme elle a commencé. En plus, j'essaye aussi toujours de ne jamais avoir d'avance sur le lecteur. Il y a beaucoup de livres, parfois même de très grands livres, mais où l'auteur sait à l'avance tout ce qu'il va faire et il vous emmène, il vous fait visiter en vous tenant par la main en tant que lecteur son musée, son jardin, son terrain. Et là, moi, je n'en sais pas plus que le lecteur à chaque phrase. Donc, je sais vaguement un peu qui sera le personnage, mais j'essaie d'inventer. Donc, je suis en même temps que le lecteur. Vous voyez, donc ça fait qu'on écrit des livres très différents. Par exemple, je pourrais jamais écrire un roman policier. Pour le roman policier, il faut vraiment avoir son plan fait à l'avance, puisqu'il faut savoir qui va tuer qui. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un roman policier.
François Weyer-Gantz au micro de Caroline Brouet et Hervé Gardette. C'était il y a 8 ans dans la Grande Table sur France Culture, une archive de l'écrivain disparu à retrouver sur notre site franceculture.fr. Des averses sur quasiment tout le pays sont prévues ce mardi par Météo France. Averses légères qui vont traverser l'Hexagone d'ouest en est. Côté température, il fait ce matin 13 degrés à Lille, 15 à Rennes, Paris, Strasbourg et Lyon. Comptez 16 degrés à Bordeaux, 21 à Marseille.